Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles en partenariat avec Écoforum et nous sommes le mercredi 9 octobre. Semaine après semaine, saison après saison, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leur engagement et leurs projets, nous tissons les liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente et créative. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de la Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je m'appelle Claire Maillot et ce soir, je suis en compagnie de Jeanne Rey.
Bonjour.
Qui est sa première émission. Bienvenue dans l'équipe, Jeanne.
Merci beaucoup.
J'ai aussi à mes côtés Mathieu Cheminal.
Salut Claire, bonjour à tous et toutes.
Et en régie, nous avons Marin Moffret, comme d'habitude.
Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Claire, merci pour cette superbe animation que tu nous prépares.
Et nous accueillons également un nouveau membre dans l'équipe aux côtés de Jeanne Rey. J'ai nommé Félix, mais ton nom de famille m'échappe.
Et il est compliqué à prononcer, c'est Félix Stedelin. Et merci pour votre accueil. Bonjour à tous.
Bienvenue à vous. Ravi de voir l'équipe de la Forêt des Possibles s'agrandir. Et surtout, ravi d'accueillir cette semaine Mathilde, qui est journaliste au sein du média Umeco.
Eh bien, bonjour et merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui.
Alors, on va parler en détail de ce qu'est ce média Umeco. Mais avant toute chose, Mathilde, est-ce que tu pourrais te présenter toi, ton parcours et notamment, qu'est-ce qui t'a amené à t'investir dans ce projet ?
Eh bien, avec plaisir. Du coup, moi, je m'appelle Mathilde Caillot. Je suis journaliste et à Umeco, j'ai beaucoup de casquettes. Mais je suis notamment journaliste et rédac-chef dans ce média que je vais pouvoir prendre le temps de vous présenter. À côté de ça, je suis journaliste indépendante et aussi journaliste en formation. Donc, je me forme à l'école de Marseille. Et voilà, que dire de plus ?
Peut-être que tu peux nous expliquer d'où tu viens et le contexte dans lequel tu as grandi et qu'est-ce qui a fait que tu as cette sensibilité pour les sujets écologiques et pourquoi tu as décidé de choisir cette voie du journalisme.
C'est vrai, parce que je ne l'ai pas précisé, mais je suis journaliste notamment sur le sujet de l'environnement et des droits sociaux. Alors moi, mon histoire, elle commence très 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 loin, dans une contrée très très reculée qui s'appelle la Bretagne. Et d'où me vient l'engagement ? En fait, moi je dis souvent que je n'ai jamais eu de déclic. Il y en a beaucoup dans l'écologie qui en ont eu, il y en a beaucoup qui n'en ont jamais eu, parce que j'ai eu la chance de grandir avec une mère qui était scientifique, et par ce biais-là, j'ai toujours été sensibilisée aux questions écologiques. Ça n'a jamais été des questions, justement. J'ai grandi avec ça, j'ai grandi dans la nature. C'était très, très naturel pour moi. Et mon histoire, pour la résumer assez rapidement, moi, j'ai pas su tout de suite que je voulais faire du journalisme. Ça a pris un peu de temps. Moi, je veux faire du journalisme, notamment sur les conflits. Donc voilà, j'aimerais me spécialiser sur les conflits environnementaux. Et en fait, en voulant devenir journaliste, après mes études de droit, je me suis dit, bon, comment aujourd'hui une jeune peut arriver dans le milieu du journalisme, comment s'intégrer, comment commencer. Et j'ai eu une opportunité de monter sur Paris qui n'avait rien à voir avec le journalisme. Et en fait, en arrivant sur Paris, je suis tombée sur un média du coup, qui s'appelle Umeco, avec un H au début, c'est important de le préciser parce que souvent on nous demande. Et je suis tombée sur ce média, je leur ai tout simplement envoyé un mail en mode « Bonjour, j'aime bien ce que vous faites, moi j'ai toujours été sensible sur ces sujets, je veux faire du journalisme ». J'arrive, ils ont dit ok. C'est très 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 résumé évidemment. et en fait, je me suis lancée comme ça. Donc j'ai commencé en étant rédactrice. Alors il faut savoir que Umeco, c'est une association, donc la majorité des activités sont bénévoles. Moi, j'ai commencé en étant du coup rédactrice. Ensuite, pour parler de mon évolution rapidement, je me suis énormément investie. Je suis devenue rédac chef assez rapidement. Et secrétaire générale aussi plus récemment, et aujourd'hui, vu que je suis descendue sur Marseille, correspondante.
D'accord, ok, bah, merci pour cette présentation de ton parcours. Donc on a commencé un peu à évoquer Umeco, tu nous as parlé de ta sensibilité innée pour les sujets écologiques, de ton aspiration à travailler en tant que journaliste de conflit. Donc on voit que ça commence à se dessiner, la présentation d'Umeco, on commence à voir ce dont on va parler. Mais est-ce que tu peux maintenant nous présenter Umeco en bonne et due forme ?
Avec plaisir. Alors Umeco, notre petit bébé. Umeco, c'est un média indépendant qui prend forme d'association. Donc on est une association, donc c'est à majorité bénévole. C'est un média, donc comme je le disais, qui est indépendant, donc qui tient sur nos petites épaules, qui regroupe énormément de passionnés, de journalisme, d'écologie. On parle de beaucoup de sujets. Alors on est principalement sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram. Umeco, ça s'écrit avec un H au début, je le précise, encore une fois. Mais on commence à intégrer plus de plateformes. Donc quand je parle de réseaux sociaux, on est sur TikTok aussi, mais sur YouTube. On a une émission qui s'appelle Prisme dessus. Et on a aussi un site internet. En gros, on fait partie un peu de cette nouvelle vague des médias qui arrivent et qui prennent possession des réseaux sociaux. Mmh. Et c'est très novateur. Enfin, c'est pas novateur parce que ça existe depuis quand même quelques années, mais en fait, c'est quelque chose dans le monde du journalisme, dans l'étendue du monde du journalisme qui est assez neuf. Et voilà, donc on va principalement... Ouais.
Est-ce qu'on pourrait citer par exemple les médias comme Brut ou Combini qui sont des pure players des réseaux sociaux ?
Exactement, oui. Souvent quand je présente Umeco, je dis c'est un peu le Brut de l'écologie. Alors Brut parle très bien d'écologie aussi. Nous, notre spécialité, c'est qu'on est vraiment plutôt focus uniquement sur l'écologie et les droits sociaux. On commence un peu à s'étendre, mais on sait vraiment notre base, notre spécialité. Donc voilà, oui, il y a d'autres médias aussi comme Vert, Reporter, etc. Nous, on a, je vais peut-être un peu vite, mais on va surtout parler des activistes. En fait, on est en lien avec eux, toujours en gardant notre position journalistique, ça c'est très important pour nous, mais on est un peu spécialisé sur le suivi des activistes, sur le suivi des actions qui sont en cours et sur le mouvement écolo global. On va parler des initiatives, mais on va aussi parler de tout ce qui se passe au niveau activiste.
D'accord, donc si je dois résumer votre ligne éditoriale avec ce que tu as pu nous dire, c'est les enjeux écologiques par le prisme des luttes sociales et du militantisme.
Exactement, tu le résumes tellement mieux que moi.
Et est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce nom Umeco avec un H, si vous n'aviez pas compris?
Alors, je précise du coup maintenant que Umeco, ce n'est pas moi qui l'ai construit. Moi, je l'ai rejoint en cours de route à peu près 2 ou 3 ans après sa création. Le mérite revient au créateur de Umeco qui s'appelle José Rexach. Et alors, il l'expliquerait mieux que moi, mais Umeco, c'est un mot pour expliquer hume comme humanité, éco comme écologie. Ça veut dire qu'on ne s'est pas énormément foulé non plus, mais ça résume assez rapidement tout ce qu'on va englober et voilà.
Ok, c'est donc un mot valise. Et la genèse du projet, comment ça lui est venu de créer
Alors,
ce média
Lui, pour raconter son histoire rapidement, pour raconter l'histoire du média, il faut raconter l'histoire du créateur. C'est très bizarre de dire ça, du fondateur plutôt, de Rossé, qui lui, quand il en parle, il m'explique souvent qu'un jour, lui, il a eu son déclic écolo. Et il s'est rendu compte qu'avant, il travaillait dans le tourisme. Et un jour, en regardant un film qui s'appelle Capharnaüm de mémoire, il raconte qu'il est sorti de la salle de cinéma en pleurs. Et j'espère qu'il pleurait parce que sinon, il va me dire « Mathilde, j'étais pas en train de pleurer ». Mais bref, il en sort avec vraiment une prise de conscience écologique très très forte où il se rend compte que sa vie, c'est pas qu'elle mène à rien, mais c'est qu'elle n'a pas de but et qu'on va être rapidement dépassé par la crise qui nous fait face. Et c'est là où il a pris le temps pour réfléchir, ok, comment est-ce qu'on peut agir, qu'est-ce qu'on peut faire, par quel prisme, comment on vulgarise l'écologie aussi. Il s'est posé énormément de questions et en 2019, il crée du coup une association qui s'appelle Umeco. Et c'est comme ça que ça a continué à évoluer. Il y a petit à petit des gens qui ont commencé à le rejoindre. Et en fait, le média s'est créé petit à petit, où en fait, notre essence était vraiment informer, mais aussi agir. Donc on peut dire qu'on se base sur du journalisme de solution aujourd'hui.
D'accord, ok. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans la rédaction ? Comment est composée l'équipe ? Donc y a le fondateur, toi tu étais rédac' chef, ce n'est plus le cas, tu es correspondante. Est-ce qu'il y a d'autres correspondants ?
Alors, pour l'instant, en fait, Umeco, ça en fait sa force, mais aussi parfois sa faiblesse. Mais sa grande force, c'est d'être une association. Ça veut dire que on est un média qui est accessible pour énormément de personnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce que c'est des jeunes journalistes comme moi, je l'ai été aussi, qui parfois passent les concours des écoles ou qui veulent se lancer à côté ou qui ont une activité mais qui trouvent quand même important d'avoir cette activité de journaliste. Donc en fait, Et après, je vais répondre très simplement à la question, je me rends compte que je pars un peu loin. Mais en gros, on a beaucoup de personnes qui gravitent autour du MECO et c'est ça qui est passionnant. C'est que parfois, il y a des gens qui vont venir parce qu'à une période de leur vie, ils ont envie de parler de tel sujet. On a notamment une journaliste qui est venue nous parler du Liban. Et en fait, c'est ça qui est vraiment très, très intéressant, c'est qu'on a énormément de gens qui gravitent. Moi encore, je suis surprise parfois. Parfois, quand j'étais encore sur Paris, parce que nos locaux sont sur Paris, ils sont à l'Académie du Climat, quand j'ouvrais la porte et que je voyais quelques personnes, parfois des visages très connus, parfois des visages pas connus, et qui nous expliquaient leur parcours de vie, ouais, je veux faire ça avec Umeco, c'est très intéressant. Sinon, pour répondre plus simplement à la question, en équipe fixe, c'est un peu compliqué, mais aujourd'hui dans le bureau, on est 8 personnes. 8 personnes très passionnées. On a une super chargée de développement. En fait, je dirais qu'on est à peu près une dizaine à bosser régulièrement sur Umeco. Et autour de nous gravitent des personnes qui viennent parfois, qui viennent quelques semaines, qui viennent quelques mois, qui viennent parfois plus longtemps, qui repartent, qui reviennent. Mais ouais.
D'accord.
Et quasiment tous bénévoles.
Et si tu devais faire la masse de toutes ces personnes, enfin, je ne sais pas si par exemple vous avez un chat WhatsApp avec toutes les personnes qui ont contribué.
On l'a supprimé parce qu'il devenait trop compliqué. On est sur Slack maintenant.
D'accord. Alors, par exemple, un indicateur, ce serait combien de personnes sont sur ce Slack ? 200 personnes ?
Non, 200 personnes, ça serait beaucoup. Ça dépend des adhérents. Je dirais que depuis le début. Ouais, depuis le début, il doit y avoir eu une centaine, voire un peu plus de personnes qui ont gravité autour du MECO. Aujourd'hui, la dernière fois que j'ai checké, il y avait 30 personnes qui étaient dans la rédaction, mais qui ne sont plus forcément actives, hein, qui reviennent. C'est très compliqué, en fait, parce que vraiment, comment compter quand c'est une asso.
Oui, c'est ça aussi la force du collectif et de l'associatif. Les gens viennent lorsqu'ils ont quelque chose à apporter et ça dépend aussi de la vie qu'ils ont en parallèle, c'est de ça. Leur projet personnel.
Parce qu'il y a toutes les personnes aussi à côté. Nous, on travaille beaucoup. Pardon, je t'ai interrompu. On travaille avec énormément de personnes du milieu, ce qui fait que c'est compliqué à compter dans le sens où eux ne vont pas forcément être dans les discussions WhatsApp, Slack, etc. Par contre, elles vont être très présente, je pense notamment à Gabrielle qui anime Prisme. En fait, il y a énormément de personnes autour de Umeco et c'est ça qui en fait sa force. Mais aujourd'hui, je serais incapable de dire combien de personnes exactement, quoi. Et moi, ça me passionne, mais voilà. Vas-y.
Tu disais que c'était à moitié bénévole tout à l'heure, donc il y a une partie de l'activité qui est salariée ou qui est...
Oui. En fait, c'est un peu la grosse question des médias indépendants aujourd'hui. C'est comment on finance ? Parce que la réalité, c'est qu'on est une association. On a vocation à rester une association pour l'instant. Mais ça demande énormément de travail de gérer un média, de gérer un média indépendant. Moi, j'ai fait un peu les deux. C'est-à-dire que j'ai fait énormément d'activités qui étaient bénévoles tout en faisant aussi des activités qui étaient rémunérées. Donc soit en freelance, soit on fait des contrats, on travaille avec plein de gens. C'est ça qui fait aussi la force du MECO, c'est qu'on fonctionne avec tout l'univers écolo qui nous entoure. Et c'est des activités qui souvent sont rémunérées. C'est comme ça qu'on paye aussi certains de nos journalistes. Mais en fait, c'est très limité aujourd'hui parce que c'est une grosse question aujourd'hui de comment rémunérer un média qui est indépendant. Là où c'est compliqué, c'est que aujourd'hui, l'information sur les réseaux sociaux, on a l'habitude qu'elle soit gratuite et on a envie qu'elle le reste, parce que tout le monde a un droit d'accès à l'information. Mais la réalité, c'est que les gens qui travaillent derrière ont aussi besoin d'être rémunérés, et c'est un peu la problématique qu'on se pose en ce moment.
Et puisqu'on parle d'argent et que vous êtes un média qui est essentiellement sur les réseaux sociaux, j'imagine que vous devez intéresser les marques, les entreprises qui ont envie de passer par vous pour promouvoir leurs services, un peu comme des influenceurs de l'écologie. Est-ce que vous acceptez ce type de collaboration commerciale? Si oui, à quelles conditions? J'imagine qu'on ne vous attrapera pas en train de faire un partenariat avec une marque de produits amincissants ou quelque chose comme ça.
Non, pourquoi pas? Non, c'est faux, c'est faux. Oh, on a récemment signé avec Bolloré, mais qui compte? Non, évidemment, c'est faux. Nous, c'est une grosse question qu'on s'est posée l'année dernière, où quand on commençait sérieusement à chercher des subventions ou à faire fonctionner le média, on s'est dit bon, vers quoi on se tourne, comment on se tourne, comment est-ce qu'on vérifie qui est derrière chaque subvention, qui est derrière chaque partenariat. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans le monde des réseaux sociaux, est compliqué encore à évaluer. Nous, en tout cas, on fait très, très, très attention avec qui on collabore. On ne va pas fonctionner avec des grosses banques, on va refuser des fondations privées qui vont nous proposer des subventions. Ça, c'est des choses sur lesquelles on ne va pas se tourner, parce que, en fait, aujourd'hui, le label écolo s'achète. C'est je l'ai déjà vu, où des gens vont créer quelque chose d'écolo, mais qui n'en a que la forme. Et c'est important de faire attention de ne pas participer avec ces personnes, parce que souvent c'est contre-productif, parce qu'au final on se rend compte que c'est pas du tout écolo. Alors sans citer de nom, oui, nous on s'est déjà rendu compte parfois que c'était pas exactement, qu'on n'avait pas exactement les mêmes valeurs, et en général on s'en va. C'est quelque chose sur lequel on a énormément de réticence. On fait très attention avec qui on communique. Et souvent, on collabore avec des personnes où on peut avoir confiance, parce qu'on travaille régulièrement avec eux derrière, ne serait-ce que sur des sujets qui restent bénévoles. Mmh.
Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous arrivez à mesurer votre audience? Est-ce que vous savez qui vous lit ou qui regarde vos contenus sur les réseaux sociaux?
Alors, c'est le grand avantage d'Instagram et des réseaux sociaux de ce type. C'est qu'on a un suivi assez plutôt détaillé des gens qui vont nous suivre, donc des tranches d'âge. On est autour de 18-35 ans. Et en fait, en tout de chacune de nos vidéos, on va voir combien de personnes regardent. Ça dépend. Parfois, on a des vidéos qui vont rester à 2000 vues. Il y en a d'autres qui vont monter. Je crois que moi, je suis montée déjà jusqu'à 200 000.
D'accord.
Donc, ça dépend énormément. Je dirais qu'en moyenne, ça doit être entre les 10 000 et les 20 000. Mais on s'est aussi posé la question parce que Instagram, malheureusement, a un algorithme qui change énormément. Et en fait, on a beaucoup de personnes qui nous suivent. On est aujourd'hui à plus de 29 000 personnes qui vont nous suivre. Sauf qu'aujourd'hui, les chiffres, ça dépend, parce que l'algorithme fait son travail de réseau social.
Oui, et puis en plus, sur Instagram, vous publiez beaucoup de vidéos, des reels, et ces vidéos-là peuvent apparaître dans notre feed alors qu'on ne vous suit pas, et vice-versa. On peut utiliser cette fonctionnalité, vous suivre et ne pas voir vos vidéos. C'est justement ce que tu disais avec l'algorithme qui est très difficile à cerner. Ouais.
C'est ça. Alors, moi, je me suis rendu compte de quelque chose récemment, et on en a aussi un peu discuté en rédac. C'est comment sortir, entre guillemets, des sentiers battus, des gens qui nous voient déjà. Et c'est toute la question pour moi du journalisme environnemental, c'est aller atteindre des personnes qui ne s'y intéressent pas forcément. Parce qu'en général, quand on s'abonne à une page comme Umeco, c'est qu'on a une sensibilité écologique. Moi, je me souviens de quand je m'étais inscrite, enfin quand j'avais suivi la page avant même de leur envoyer un mail, je m'étais dit ça va me permettre de me tenir au courant des affaires environnementales qui sont en cours, c'est un petit rappel à chaque fois que j'ouvre Instagram de comment. Alors je sais pas si toutes les personnes qui nous suivent ont pensé ça. Ça, j'en sais rien, on n'a jamais fait de sondage. Mais j'ai oublié le début de ta question. Je me suis perdue.
On parlait d'algorithme. Mais oui. J'ai une autre question pour toi. C'est de savoir un peu qu'est-ce qui fait la recette d'un contenu réussi chez Umeco. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un peu des bonnes pratiques ou des choses qui fonctionnent bien parce que vous connaissez bien votre audience? Qu'est-ce qui fait qu'on sait que c'est une vidéo faite par Umeco et pas faite par Reporter ou Vert?
Alors, déjà, c'est un peu compliqué en tant que journaliste de parler de recettes qui vont réussir. Nous, on a envie que tous nos sujets soient très très visibles sur les réseaux sociaux. Pas parce qu'on est là en mode nous, on est trop fort, vous regardez ce qu'on fait, c'est génial. Non, parce qu'en fait, on part du principe que chaque sujet qu'on va traiter est légitime à avoir une voix. On va donner la parole à des gens qui, pour nous, ok, il faut en parler, faut qu'on fait notre travail journalistique au final avec tout le bagage journalistique que ça implique. Aujourd'hui, une recette qui marche, comment... Alors, peut-être qu'il faut poser la question du coup de la ligne éditoriale. Umeco, on a une ligne éditoriale assez particulière que moi j'adore. En fait, on va parler d'écologie, de droits sociaux, etc. Ça, c'est les sujets qu'on va traiter. Et en fait, on va essayer d'être le plus vulgarisateur possible. Ça veut dire que nos sujets, on va essayer de les traiter avec humour. Mais parfois, il y a des sujets qu'on ne peut pas traiter avec humour, évidemment. Mais on va essayer, en fait, d'amener la personne à se renseigner sur le sujet sans qu'on parte sur des choses qui sont beaucoup trop compliquées, enfin, vraiment très complexes. Et on va parler avec beaucoup d'humour. On va faire intervenir des gens qui savent que quand ils viennent sur Umeco, il va falloir vulgariser le sujet. Et c'est vraiment... La chose importante chez nous, c'est vulgariser le sujet écologique parce que tout le monde ne peut pas le comprendre forcément. En général, on va... Alors après, je pourrais vous parler des détails, des montages, des glitchs différents qu'on a, de combien de secondes. Non, c'est très long. C'est pas forcément très intéressant. La bonne recette d'un sujet, c'est d'abord avoir des images parce qu'on est, principalement en vidéo. Et c'est de parler d'un sujet qui va toucher les gens dans leur quotidien.
Ouais, puisqu'on parle de ligne éditoriale, tu disais qu'il y avait beaucoup de personnes qui gravitaient autour du projet et qui nourrissaient les contenus et les articles. Comment vous décidez un petit peu des contenus que vous diffusez ou non? Quel est le mode d'arbitrage un peu que vous pouvez faire sur certains sujets qui parfois méritent d'être traités ou pas? Et ça, sur la diversité aussi des réseaux avec lesquels vous travaillez.
Alors déjà, moi j'ai envie de dire, quand j'étais rédac chef, la première chose que je regardais quand je recevais soit un article ou même quand on m'en parlait, etc., c'était est-ce que la personne a eu une démarche journalistique ? C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de nous avoir sur le côté « mais vous êtes militant ?» Vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des militants. On l'a beaucoup, le côté « vous êtes des journalistes engagés, etc. » Ça, c'est une très longue discussion. Nous, aujourd'hui, on fait attention à rester journaliste, c'est-à-dire à respecter tous les codes de journaliste, des journalistes aujourd'hui, de faire attention à notre indépendance, de faire attention à ce qu'on ne soit pas en fait une plateforme de communication. Donc, en général, avant, enfin, du coup, maintenant, j'ai un peu arrêté, mais je suis plus vraiment rédac chef parce que je suis à Marseille. Mais avant, je faisais attention quand on me parlait d'un sujet en mode, ok, fais attention, c'est pas ton avis qu'on veut, c'est concrètement comment tu travailles ton sujet. Ok, tu vas parler de tel déversement polluant dans une rivière. Ok, tu vas aller voir les différents acteurs. En fait, c'est un travail journalistique, c'est vraiment la première chose qu'on regarde. Après, comment on choisit, ça dépend. Chaque personne qui travaille dans Umeco, qui est bénévole, a ses domaines de prédilection. Et il va nous les présenter. Et on connaît la personne et on sait, ok, tu veux parler de quoi? Moi, par exemple, j'ai beaucoup parlé des sujets internationaux. J'ai suivi le procès sur l'agent orange de Trantonia. Et en fait, quand on en parle, parce que moi, je suis rédac chef, mais je choisis pas mes propres sujets. Enfin, genre en mode, je vais choisir mes propres sujets, mais je vais les présenter aussi. Et on peut me dire stop. Et en fait, par exemple, là-dessus, c'est ok, comment tu l'amènes? Est-ce qu'il y a du contradictoire, etc.? Mais sinon, c'est vraiment des sujets sur l'écologie et on fait attention aussi à ne pas faire de la communication des associations. C'est quelque chose sur lequel on travaille aussi, parce qu'elles vont souvent, parce qu'on travaille beaucoup avec elles, mais on va faire attention au sujet et pas juste parler. Alors cette association fait ci, fait ça et tout. Bref, c'est très complexe.
Mais d'après ce que tu décris, il doit y avoir assez peu d'occurrences où tu as envie de mettre un veto sur un sujet finalement. Enfin, c'est souvent le propre des projets où les gens partagent beaucoup les valeurs et sont déjà très engagés à la base, c'est que ça reste dans le cadre.
Je suis pas sûre d'avoir déjà mis, c'est une bonne question, je suis pas sûre d'avoir déjà mis un veto sur un sujet. Ça a pu m'arriver. Si ça se trouve, là, j'ai un rédacteur qui est en mode, mais bien sûr que si, Mathilde, tu m'avais dit non. C'est possible. Ça arrive rarement. Ça arrive rarement. Ça arrive rarement. Par contre, on fait quand même très attention. En fait, souvent, les gens vont venir me voir ou vont venir me voir en mode, je veux parler de ça. Et en fait, le sujet de départ est complètement différent du sujet d'arrivée. Parce qu'on va aider la personne à vraiment... Parce que souvent, on a des journalistes professionnels, mais on n'a pas que des journalistes professionnels. Et on va l'aider à dire, OK, alors ça ou ça, tu peux en parler, mais il va falloir en parler d'une certaine manière parce que tu ne peux pas arriver en mode, moi, je suis persuadée que c'est comme ça. Non, toi, tu es persuadée de rien du tout, toi, tu es journaliste. C'est important. C'est très, très important.
Moi, j'aurais une question avant que nous prenions une petite pause musicale. Mmh. J'aimerais que tu nous racontes un behind the scene, un reportage sur lequel tu aurais travaillé, comment tu t'y es prise, l'histoire qu'il y a derrière, les résultats lorsque ça a été mis en ligne, les retours que tu as eus. Je serais curieuse d'avoir le récit d'un de ces reportages.
Oh là là, je pense que tu vas me détester. C'est compliqué de parler d'un seul reportage parce qu'en fait, il n'y a pas de recette parfaite. C'est que moi, j'ai fait des reportages qui étaient complètement différents. Je peux être, et j'en suis vraiment désolée, mais je peux autant avoir eu du studio, c'est-à-dire j'invite la personne à venir parler et on est comme ça, comme ici maintenant, face à face. Et en fait, elle m'explique sur quoi elle a bossé, comment, etc. Et ça, c'est des... Par exemple, il y avait ce sujet de l'agent orange. C'est comme ça que je l'ai fait au début. C'est eux qui ont pris contact avec nous. Moi, je les ai rencontrés, on en a discuté, on a fait une première vidéo face cam et ensuite on a fait une vidéo sur le terrain. Donc en fait, souvent, moi j'adore les suivis. Mm-hmm. J'aime beaucoup suivre les sujets. Après, parler d'un... C'est un peu compliqué de parler d'un seul reportage. Il y a plusieurs sujets qui m'ont marqué parce qu'en fait, parfois, je vais sur le terrain, je vais dans une association qui va me parler. Mon sujet, ça va être comment amener la nature en ville. Je vais aller voir une association qui a fait un potager en plein milieu. La dernière fois, c'était à Aubervilliers. Et du coup, ça va être une journée très, très tranquille où je vais rencontrer les acteurs, les acteurs de cette association. Je vais parler avec eux. Ensuite, je vais monter. Souvent, moi, j'adore monter mes sujets. Alors, on a un monteur, hein, Clément, si tu nous écoutes, j'aime beaucoup ton travail. Moi, j'adore monter mes sujets. Mmh. Donc je vais le monter, on va le mettre en ligne et on va avoir des retours en mode ah c'est chouette, on aime ça, etc. Le lendemain, je peux être sur le terrain de Sciences Po avec les flics qui nous envoient du gaz lacrymogène. Donc c'est pour ça que je dis que c'est compliqué pour moi de parler d'un seul reportage. À Umeco, on fait beaucoup de choses différentes, on va sur le terrain, mais le terrain en fait dans le monde écologique ça bouge tellement, c'est compliqué.
Et ça doit aller très vite,
j'imagine. Ça va très, 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 très vite, sachant que, comme je disais tout à l'heure, l'écologie, c'est une lutte, mais c'est une lutte qui en regroupe plein d'autres et qui en croise plein d'autres. Et souvent, on arrive à ne pas pouvoir parler d'un... Je m'éloigne complètement. souvent, on arrive à ne pas pouvoir parler d'un sujet sans en évoquer un autre. Et ouais, donc en fait, les behind the scenes, c'est souvent... le matin, j'arrive à l'Académie du climat. Je sais à peu près déjà qu'est-ce que je vais tourner. Je vais prendre mon matos, je vais aller sur place. Nous, alors, vu qu'on est un média indépendant, en général, les grosses maisons, les gros médias vont avoir un GRI, un journaliste reporter d'image et un rédacteur. Donc l'un va se charger de faire les images, l'autre va se charger du sujet. Nous, c'est un peu différent. On n'a quasiment jamais ce format-là. Mais après ça va avec le flow du journalisme. Aujourd'hui un journaliste ne peut plus faire ni l'un ni l'autre, enfin que un ou que l'autre, et du coup on va filmer tout en faisant le format. On filme à l'iPhone principalement parce que c'est plus pratique de filmer à l'iPhone. Aujourd'hui on a des très 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 belles images en mojo, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc moi, j'ai mon petit micro Hollyland, c'est mon petit bébé qui me permet d'interviewer les gens très facilement. Et, alors on filme de temps en temps à la caméra, c'est beaucoup moins pratique sur les terrains qu'on fait. Et voilà, donc je vais filmer, je vais interviewer les gens. Souvent, en fait, nos sujets font 1 minute 30. La réalité, c'est que derrière, moi ou les autres qui montent, on est en train de se casser la tête à faire rentrer tout en 1 minute 30 parce qu'en fait, on a tellement de choses à dire. C'est passionnant, mais 1 minute 30, c'est les réseaux, c'est comme ça. On peut pas faire plus. Et
encore une fois, sur les réseaux, il faut que ça aille vite.
Il faut que ça aille très, très vite. Mais j'en parlais à un journaliste la dernière fois qui lui travaillait en télévision, il n'y croyait pas. Quand je lui dis, mais que nous, notre moyenne de visionnage, c'est souvent 10 secondes. Alors, il y a des gens qui vont regarder, y en a plein qui vont regarder et qui vont re-regarder le sujet. Il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont voir ça. Et en fait, si tu les chopes pas tout de suite, ils ne vont pas s'intéresser au sujet. Et c'est le questionnement de comment on fait un sujet, comment on construit quelque chose d'intéressant sur les réseaux sociaux et qui est regardé jusqu'à la fin parce que c'est important. Mais là, je me suis encore éloignée.
Non, mais c'est intéressant. C'est vraiment les spécificités des plateformes comme Instagram. C'est qu'il faut effectivement accrocher le spectateur, spectatrice, dès les premières secondes. Sinon, ils continuent de scroller et ils sont dans ce tunnel infini.
Moi, je les comprends. J'aime beaucoup les vidéos de chat aussi. Hein. Je comprends complètement. Mais on s'impose petit à petit.
Est-ce qu'on prend une pause ?
Eh ben, vas-y.
Ouais. Est-ce que tu pourrais nous présenter le titre que tu as choisi pour cette pause musicale ?
Alors, même au-delà du titre, je vous présente Colline BLF, qui est non seulement une très bonne amie, mais qui en plus est une artiste remplie de talent, qui fait beaucoup de musique, qui va parler de ses sujets, de ses luttes. Elle a travaillé pour On est prêt, c'est quelqu'un qui connaît son sujet. Et je trouve ses musiques absolument incroyables, très douces, qui font beaucoup de bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais proposer un de ces sons.
Merci.
Je t'en prie. Thank you.
Vous êtes de retour sur Radio Galère au 88.4 et nous sommes ce soir en compagnie de Mathilde Caillot pour le média Umeco. J'ai oublié de préciser que vous êtes bien en train d'écouter l'émission de La Forêt des Possibles. Donc dans une première partie, Mathilde nous a présenté en détail Umeco, qui est un média qui traite les sujets d'écologie, de justice sociale et d'activisme. Et dans une seconde partie, nous allons parler de la place des médias aujourd'hui et du traitement qu'ils font des sujets de climatiques. Moi, la première question que je voulais te demander, Mathilde, c'était quels sont les défis pour vous en tant que média indépendant sur les réseaux sociaux, les défis que vous avez à relever en tant que média indépendant, je me répète.
Oh bah là, alors là, c'est... Ils sont nombreux, ils sont très 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 nombreux, non seulement en tant que jeune média, parce que même si on a été créé il y a 5 ans, ça reste un jeune média qui fait tout son possible pour ne pas se casser la tête, on va dire. On fait notre possible pour survivre et pour évoluer, surtout c'est très important. Les défis, ils sont nombreux, comme je parlais tout à l'heure, ils sont notamment sur la vision du journalisme. Il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de nous chercher sur le côté vous n'êtes pas vraiment journaliste, vous êtes militant. Alors moi j'ai un avis très personnel sur le fait d'être journaliste militant, parce que pour moi ça ne veut rien dire, soit on est l'un soit on est l'autre. Le journalisme a des codes particuliers qu'on tente le plus possible de respecter, enfin qu'on tente le plus possible, qu'on respecte le plus possible. Et donc là c'est le premier, on a aussi, vu qu'on est un média qui parle d'écologie, on va souvent nous dire mais vous êtes un média de gauche. Vous êtes un média de ci, de ça, de nanana. Il y a beaucoup d'avis qui se partagent dessus. L'écologie a beaucoup de mal à sortir de la vision, de la vision militante qu'on en a. Nous, on parle d'écologie parce qu'il faut en parler, parce que c'est des sujets, comme il y a des médias qui vont parler surtout des sujets internationaux, comme il y a des médias qui vont parler de culture, comme il y a des médias qui vont parler de ci, de ça, etc. L'écologie, aujourd'hui, a un certain tabou, même dans le monde du journalisme. Moi, en tant que étudiante en journalisme, je me rends compte que... Alors, j'adore mon école, attention, hein. Mais je me rends compte que sur des sujets aussi importants et qui galvanisent autant de tensions, on est assez peu formés aujourd'hui. Alors j'espère que ça va venir, je sais que ça va venir, parce que moi j'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais je pense qu'il faut former les jeunes journalistes à en parler, parce que nous, on a beaucoup au sein du MECO de jeunes journalistes qui viennent nous voir et qui nous disent « alors moi je travaille pour tel média » et qui sont des très 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 gros médias, qui sont des très très grosses maisons, et qui viennent nous voir en nous disant « ces sujets-là ont été refusés, mais je pense que c'est important d'en parler » et qui du coup se tournent vers nous parce que ailleurs, ces sujets ne sont pas pris. Et je pense... C'est un avis personnel. Je pense qu'ils ne sont pas pris parce que beaucoup de médias ont des réticences à en parler parce qu'ils ne savent pas comment en parler. Et l'écologie, aujourd'hui, doit vraiment vivre dans le journalisme, il doit vraiment vivre une transformation, parce qu'il va falloir qu'on arrête avec ce tabou. Il va falloir qu'on en parle très naturellement, comme on parle aujourd'hui de la guerre, comme on parle aujourd'hui de la culture, comme on parle aujourd'hui d'absolument tous les autres sujets. Aujourd'hui, c'est très, 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 très regardé. Et il y a très, très peu aussi de part de... On va en parler peu.
Et du coup, la transition est parfaite pour mentionner cette charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Pour vous citer quelques-uns de ces principes, le premier, qui rejoint exactement ce que tu étais en train de dire, c'est de traiter le climat, le vivant et la justice sociale, donc ces trois pans, de manière transversale. C'est-à-dire que ces sujets sont indissociables et que l'écologie ne doit pas être cantonnée à une simple rubrique, mais elle doit devenir un prisme au travers duquel considérer l'ensemble des sujets. Pour citer d'autres principes de cette charte, je ne les citerai pas les 13 points, mais il y a aussi faire œuvre de pédagogie, s'interroger sur le lexique et les images utilisées. Typiquement, on peut repenser à les sujets de canicule qui sont illustrés par des enfants qui jouent dans des fontaines à eau et des gens qui mangent des glaces, assurer la transparence, élargir le traitement des enjeux, informer sur les réponses à la crise. Voilà. Est-ce que tu as envie de nous partager un ressenti par rapport à cette charte ? Tu me disais tout à l'heure que Umeco avait signé cette charte.
Oui, nous, on est signataires de la charte. Bon, alors, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas la meilleure pour en parler parce que je n'étais pas là quand on l'a signée. Mais en fait, pour moi, ça me paraît évident. Tout ce qui est écrit est évident. Et en fait, rejoindre des codes journalistiques très clair. Et en fait, c'est vraiment la question de comment est-ce qu'on intègre l'écologie dans le journalisme et comment on en parle, comment est-ce qu'on peut arrêter un peu les rubriques à impact qui durent quelques minutes, comment est-ce que vraiment ça va faire les premiers sujets de JT. Et je pense qu'il y a cette charte qui est extrêmement importante, mais je pense qu'au-delà, vraiment encore, ça vient sur la formation des journalistes, sur la formation de casser ce tabou. Et c'est en fait d'intégrer les codes journalistiques à la prise de parole écologique. C'est comment est-ce qu'on va amener des gens qui sont experts sur le sujet, comment on va vulgariser. Aujourd'hui, on a quand même assez peu de vulgarisateurs de l'écologie. Et de personnes qui vont être capables de prendre la parole d'un scientifique et qui vont l'amener sur un média et qui vont réussir à expliquer concrètement de quoi on parle, de pourquoi on en parle et de pourquoi c'est important d'en parler, comme tous les autres sujets. Pour moi, vraiment, l'écologie doit être traitée comme tous les autres sujets, même si elle a cette petite particularité de si jamais on n'est pas, si jamais on n'a pas une prise de conscience écologique, bon, qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce que va devenir l'humanité ? Ça, c'est un autre débat. Mais pour répondre rapidement, cette charte et plein d'autres. Plein d'autres initiatives doivent nous aider à amener l'écologie sur le front du journalisme.
Ouais, c'est intéressant que tu dises que c'est indispensable que les étudiants en journalisme passent par la case formation à ces sujets. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut observer dans tous les secteurs.
Étudiants, aujourd'hui.
Étudiants et même, journalistes.
J'allais dire
déjà,
parce que étudiants, aujourd'hui, le journalisme, malheureusement, passe énormément par les écoles. Alors, les écoles sont très bien, c'est pas ça, mais il y a eu une époque où c'était pas forcément un prérequis pour devenir journaliste. Aujourd'hui, on est de très 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 bons journalistes et j'espère que ça continuera beaucoup, qui ne sont jamais passés par des écoles. Mais quand je parle de formation, c'est au niveau des écoles, mais c'est aussi au niveau de tout le reste. C'est arrêter avec le tabou du journalisme, enfin de l'écologie dans le journalisme. Excuse-moi, je t'ai interrompu.
T'inquiète, pas de souci. Tout à l'heure, quand tu disais, pour rebondir sur cette charte du journalisme à la hauteur de l'urgence des enjeux écologiques, je pense que c'était ça l'intitulé exact. Donc, Umeco est signataire, mais il y a aussi de grands médias qui sont aussi signataires. Or, on sait qu'aujourd'hui, la confiance qu'on peut accorder dans ces grands médias, la confiance est un peu remise en question. Tout à l'heure, tu disais que certains journalistes indépendants qui soumettent leur reportage à ces médias se retrouvent refusés. On a tous vu la carte des médias qui appartient à une petite poignée de milliardaires. Toi, j'aimerais bien connaître ta vision sur cette opposition qu'on peut faire entre médias traditionnels et médias indépendant, et j'aimerais savoir aussi, est-ce que toi tu serais prête à passer de ce côté des médias traditionnels où il y a peut-être plus de moyens mais des contraintes qui sont différentes?
C'est une très 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 large question qui est compliquée de répondre en quelques minutes qui rejoint un peu tout, c'est-à-dire on pose souvent la question, tu serais capable de travailler pour BFM ou pour CNews? Oui, non, peut-être, je n'en sais rien. Sur l'écologie, c'est compliqué parce que, en fait, il y a deux choses. Je pense qu'on va se tourner de plus en plus vers les médias indépendants. Il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers ça. Pourquoi ? Parce que l'indépendance de la presse, parce que les milliardaires, parce que on comprend plus très bien comment ça fonctionne aujourd'hui. Alors, mon avis, c'est que les médias ne devraient pas. On ne devrait pas avoir de loi qui autorise des grands milliardaires à avoir des médias. Donc c'est un peu compliqué. Par contre, on ne peut pas passer sans. on peut pas se passer aujourd'hui des gros médias. C'est pas possible de totalement bouder France TV, de totalement bouder TF1. Certains font des choses qui sont très bien pour avoir discuté avec beaucoup de journalistes qui sont à l'intérieur. Il y a une conscience, parce que dire qu'ils n'en ont aucune, c'est pas vrai. Par contre, est-ce que ça va assez vite? Est-ce que ça change assez vite? Est-ce qu'on laisse assez de place aux nouveaux journalistes qui ont envie d'en parler? Ça, je ne sais pas. Donc oui, il y a de plus en plus de monde qui vont se tourner vers les médias indépendants. D'ailleurs, je crois que les chiffres, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que les moyennes d'âge à peu près des gros médias, là je parle de télé plutôt, parce que c'est plutôt mon expertise, par exemple TF1, France TV, etc., la moyenne d'âge doit être autour de 60 ans.
Des spectateurs, pardon.
Et la moyenne d'âge des gens qui regardent les médias indépendants sont plutôt, sont que des jeunes, mais je crois doivent tourner autour des 40 ans. Je grossis complètement les chiffres. Mais je pense qu'il y a une volonté claire de se renseigner ailleurs. Et pour moi, les gros médias ne doivent pas forcément disparaître, mais doivent évoluer avec leur temps. Et ça a commencé à se voir. Alors parfois, ça arrive, ça repart. France TV qui met des programmes qui les enlèvent. Et aujourd'hui, on avait une discussion très intéressante avec des journalistes récemment pros qui parfois disaient « mais le journalisme environnemental ne fait pas vendre ». Et c'est une réalité aujourd'hui. C'est que ce n'est pas très sexy de parler des pollutions, des gros sites qui vont polluer la nature, des initiatives, etc. Ça ne fait pas vendre. Et c'est la grosse question. Et aussi, quand je parlais de tabous, c'est que dans le journalisme, et j'en parlais avec des journalistes encore une fois qui avaient gravité autour de ces gros médias, qui nous disaient parfois c'est les pubs qui refusent. Ils vont refuser d'avoir une pub à côté de ce genre de sujet parce que soit ça fait moins vendre, parce que c'est tabou, tout simplement. Et en fait, y a énormément de questions à se poser de comment est-ce qu'on évolue. Moi, je suis persuadée qu'on va évoluer. Le journalisme, la nouvelle génération qui arrive, vous inquiétez pas, on arrive, on est là. on est là. C'est dur, mais on est là.
Oui, et puis à un moment, la réalité va nous rattraper. On voit qu'il y a de plus en plus d'événements climatiques extrêmes, les conséquences sont de plus en plus palpables sur la réalité économique, donc on va forcément y passer. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tout à l'heure, j'ai vu, vous savez, là, la grosse tempête, l'ouragan qui va s'abattre en Floride d'ici quelques heures. Quelqu'un se souvient de son nom ou pas? Non, je me demande si c'est pas...
Kirk,
c'est ça? J'avais entendu, alors je ne sais plus malheureusement, j'aimerais pouvoir citer cette personne, mais quelqu'un qui suggérait de renommer le nom de ces ouragans d'après le nom de grands pollueurs. C'est-à-dire d'avoir l'ouragan Patrick Pouyanné, avoir l'ouragan Nestlé, Coca-Cola.
Oui, parce que Kirk, il n'a rien demandé, au final.
C'est ça.
Ouragan Milton, je viens de faire la petite recherche.
D'accord,
Milton.
Ok.
C'est je crois que Kirk, c'est celui qui nous a touchés à Marseille, là. C'est pas vraiment un ouragan, mais
il était quand même impressionnant. Ok. Autre question. Tout à l'heure, quand tu parlais de la moyenne d'âge concernant les spectateurs des médias, grands médias traditionnels, les médias indépendants, c'était plus jeune. Donc autour de 40 ans, je pense que si on va encore plus jeune, les 20 ans, ils s'informent beaucoup sur les réseaux sociaux. Je pense même que c'est l'une des, si ce n'est la principale source d'information pour les plus jeunes. Et comment on peut s'y retrouver dans toute cette jungle d'informations? Parce qu'en fait, quand on est un média indépendant, à quel moment on va pouvoir garantir le professionnalisme, le journalisme, et pas juste avoir une opinion et de se décréter comme étant un média, d'avoir une certaine réalité. Là, je pense notamment aux fake news ou aux messages qui vont être biaisés. Il y a tous ces phénomènes de biais de confirmation où on va aller chercher une information qui va dans notre sens.
Même pour confirmer, pour aller dans ton point, qu'est-ce que la forêt des possibles? Nous, si on fait notre propre introspection, est-ce qu'on est un média qui donne la parole aux acteurs et aux actrices de transition écologique et sociale de Marseille? Ou est-ce qu'on est un haut-parleur qui se positionne plus sur le côté militant et de dire on met en valeur des initiatives qu'on a envie de mettre en avant?
Ah ben, très grande question sur laquelle on est encore en pleine réflexion. C'est vrai que la tentation est grande quand on connaît les assos, quand on connaît les gens. Ok, d'accord, tu parles de ça, ok. Au final, ça revient un peu sur la question de comment on choisit nos sujets. Et en fait, je pense que la question, c'est un peu comment est-ce que nous, en tant que jeunes médias, on n'est pas là pour influencer les gens. Comme je disais, nous, on fait très attention. On va respecter les codes journalistiques, on va respecter la charte de Munich, etc. Tout ce qui est déontologie, nanana. Et parce que c'est hyper important, sinon. Sinon, on n'est pas journaliste, on est militant. Alors, c'est une question qui s'est posée, notamment en mode comment est-ce qu'on va vers les autres ? Alors, on a essayé, honnêtement. Et il va falloir qu'on essaye encore plus fort parce qu'en fait, souvent, moi, j'ai des rédacteurs et des rédactrices qui viennent me voir en mode, tu sais, le sujet là que je suis en train de faire et tout, j'ai contacté, je pense notamment à une rédactrice qui m'avait fait des sujets sur la 69. Mais tu sais, moi, j'ai contacté les élus locaux qui sont pour la 69. Ah ouais, ils t'ont dit quoi ? Ils m'ont dit non, on parlera pas.
D'accord.
J'ai fait, ah, ok, pourquoi ? Bah parce qu'ils aiment pas Umeco. Ok, d'accord. Et ben, il va falloir trouver un moyen que, voilà, de faire autrement. Après, il y a d'autres exemples aussi plus simples. On fait attention. En fait, la réponse, elle est toute simple. C'est qu'on fait attention au code journalistique. On a conscience d'avoir une part d'audience qui est extrêmement, qui est jeune. Nous, ouais, vraiment, c'est entre les 18-35 ans à peu près. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, si les jeunes sont là, c'est parce qu'ils ont besoin aussi de nous écouter. Et nous, on a la responsabilité de leur apporter des sujets qui sont correctement construits et qui sont construits avec toute la réflexion qu'on va se poser derrière. Comment est-ce qu'on construit notre sujet ? On respecte les codes. Voilà. On ne donne pas la parole à tel groupe politique ou tel groupe politique. Souvent, on va nous dire, mais vous êtes de gauche ? Non. Nous, on est un média qui parle d'écologie. Oui, mais c'est de gauche. Ah, voilà, ça. Large question.
Oui, est-ce que l'écologie est de gauche ?
C'est ça.
Ce n'est pas une question à laquelle nous allons répondre ce soir.
Non.
Parce que nous avons encore...
Mais s'il vous plaît, les gens de droite et les autres personnes qui ne sont pas de gauche, répondez-nous. Parce que nous, on essaye, mais répondez-nous, quoi. Pardon, je t'ai interrompu encore.
Non, on a Marin qui veut prendre la parole.
En l'occurrence, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Mathilde, il y avait la restitution de la Cité des Possibles ce dimanche à la Grotte Cosquer, en présence de Alternativa, la Cité des Transitions, la Forêt des Possibles, l'Assemblée citoyenne du futur, et après des représentants de la ville et de la métropole. Et il y avait monsieur Jean-Yves Sayag, élu de la métropole, qui se présente comme un lanceur d'alerte, notamment sur tout ce qui concerne les déchets sauvages, et qui est très investi depuis des années là-dessus, mais qui, lui, milite pour être d'une écologie dite de droite. Il y a même des articles Libération qui ont été écrits à son sujet, où c'est même pas qu'il est de gauche, c'est qu'il est plutôt à être proche de milieux qui sont très à droite, et lui-même le revendiquait, mais en ayant une approche assez sincère sur le respect de l'environnement. Donc là-dessus, il a demandé, lors de toute la soirée, de pouvoir dépasser les clivages. Mais après, on en parlait tout à l'heure avec Claire avant la préparation de l'émission sur ce qu'est l'écologie quand il n'y a pas de lutte de classe, et je te laisserai dire ce que c'est qu'à la fin, le jardinage. Voilà, à un moment, la question de dépasser le clivage, ça implique quand même d'avoir une approche sur un modèle économique et donc aussi une cohérence sur ce que ça implique ou non.
Oui, bah c'est ça. Après, moi, pour répondre à cette question, c'est pas moi qui vais prendre la parole. Moi, je vais faire mon travail de journaliste et je vais justement aller voir des gens qui vont répondre, qui vont donner leur avis. C'est ça aussi le petit truc, c'est que nous, on n'est souvent pas là pour donner notre avis. Alors, écologie de droite, écologie de gauche. La question se pose beaucoup.
Il est normal aussi d'avoir différentes visions de ouais. l'écologie. Enfin, c'est un sujet qui est tellement vaste, qui touche à
c'est
tellement de sujets. C'est normal aussi qu'on ait différents points de vue et c'est même sain qu'ils puissent s'affronter.
Bah, je pense que justement sur en fait, ces questions-là, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'écoles différentes. Il va y avoir aussi beaucoup de personnes qui vont penser des choses différentes. Est-ce que moi je suis là pour donner mon avis perso ? Je ne sais pas. si vous me posez la question, est-ce que l'écologie peut être extrême droite ? Là, je vais grincer un peu des dents. D'accord ? Là, ça va être un peu ma limite. Mais en fait, c'est justement un sujet qui est très intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui ont des réflexions très intéressantes dessus. Je pense qu'il faut leur donner la parole et les écouter. Et c'est ça aussi le travail d'un journaliste ou d'une journaliste, c'est d'aller justement les interroger. Pourquoi toi, tu penses ça ? Pour ça, ok. Et toi, pourquoi tu penses ça ? Ok. Et tu es d'accord avec lui ? Non, ok, d'accord. Mais pourquoi ? Blablabla, pourquoi ? Pourquoi ? Et voilà.
Ok, bah merci beaucoup en tout cas Mathilde pour tous ces sujets. Enfin, c'est tellement intéressant, on pourrait en parler encore pendant longtemps.
Surtout que moi je blablate beaucoup, donc on est encore là pendant jusqu'à minuit.
Ce qui fait la richesse de cette émission. Mais avant de se quitter, j'aimerais qu'on clôture avec la question que nous posons habituellement à nos invités. C'est d'imaginer à quoi ressemblerait Marseille en 2030 qui a réussi sa transition. Alors je sais que tu viens d'arriver dans cette ville et...
Je me rends compte que j'ai même pas parler de Marseille. Qu'est-ce que Umeco fait là ? Qui sommes-nous ?
C'est vrai. Mais vraiment, on n'aura malheureusement pas le temps d'aborder ça en profondeur, mais je veux bien avoir ta vision de Marseille en 2030 qui a réussi sa transition. À quoi ça ressemble ?
Alors, je vais essayer de faire très vite parce que c'est un sujet, moi je suis là depuis un mois, que je creuse depuis que je suis arrivée. J'ai du mal à me prononcer sur à quoi ressemblera Marseille. J'en ai aucune idée. Je pense que personne aujourd'hui ne peut dire à quoi ressemblera Marseille. Je pense que par contre, l'écologie à Marseille doit avancer avec ses habitants et ses façons de faire. Je pense que c'est très très important de respecter les gens qui sont là, les gens qui habitent sur ce territoire depuis longtemps, même les gens qui viennent ici. Pourquoi est-ce qu'ils viennent ici et comment est-ce qu'on peut évoluer ? Alors, il y a une transition à faire à Marseille, c'est certain. Il y a beaucoup de questions écologiques qui vont se poser. Ça serait hypocrite de dire non, mais il n'y a aucun problème, je ne vois vraiment pas. Le plastique dans la mer, non, il n'existe pas. C'est faux. Par contre, je pense que l'écologie à Marseille doit absolument avancer avec les gens qui la composent. Et c'est très, très, très important de faire avec tout le monde, d'écouter les raisons et de pourquoi est-ce que ces gens ne sont pas écolos, pourquoi est-ce qu'ils le sont, pourquoi est-ce que... En fait, il faut vraiment poser des questions. À quoi ressemblera Marseille en 2030 sur l'écologie ? Moi, si vous me donniez le choix, j'enlèverais beaucoup de voitures, notamment parce que les Bouches-du-Rhône, ça me terrifie de conduire là-dedans, ça me fait peur. Mais à quoi ressemblera Marseille ? J'espère un grand espace de discussion et d'évolution. Et j'espère qu'on arrivera à tous se parler, peu importe comment on parle, vraiment parlons entre nous.
Et ben c'est sur ces belles paroles de dialogue et d'échange que nous allons nous quitter. Un grand merci à Mathilde
merci
pour
à vous.
Cette intervention. Merci l'équipe.
Ouais, merci.
Merci
Claire.
Merci à vous.
Merci Mathilde.
Et on se retrouve la semaine prochaine avec Audrey qui viendra de nous parler du projet Forever.